Imagine, quelques petites maisons de pisé brûlées par le soleil dans la torpeur d'une après-midi d'Orient. Les fenêtres sont étroites et les murs épais pour retenir un tant soit peu de fraîcheur. Ici, tout le monde est pauvre. Non de cette pauvreté de misère qui épouvante, mais de celle qui permet d'accueillir les dons de la terre et du ciel comme autant de surprises. Chacun connaît chacun. Les hommes, paysans ou artisans, se côtoient dans le rude travail qui est le leur. Quant aux femmes et aux jeunes filles, regardez-les revenir du puits, la jarre d'eau en équilibre sur un coussinet posé sur leur tête. Elles bavardent et interpellent au passage Marie, la fille d'Anne et de Joachim, dont on a célébré les fiançailles avec Joseph, le charpentier, il y a déjà plusieurs mois. Nous habiterons ensemble dans peu de temps, affirme Sarah, qui, on ne sait comment, est toujours mieux renseignée que quiconque. Marie est dans la salle basse de sa maison, derrière le métier à tisser. Elle a répondu en souriant à ses amies qu'elle connaît toutes par leur nom. 13 ans déjà qu'elle a son univers ici, ponctué par les événements simples du village, sabbat, fête solennelle ou célébration grave. Elle n'ignore rien de l'histoire de son peuple. Elle est née dans une famille où le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël, est respecté et aimé. Combien de fois, à la synagogue, n'a-t-elle pas entendu les récits des prophètes des anciens temps, rappelant l'amour persistant de Dieu pour Israël, si souvent infidèle? Comme toutes les petites filles israélites, elle a rêvé que, peut-être, naîtrait d'elle un jour le Messie que tous attendaient. « On en aurait bien besoin du Messie », disait récemment Samuel, l'un des voisins. Il nous débarrasserait des Romains qui ne savent faire que deux choses, accroître sans cesse le poids des impôts et dresser des croix pour se débarrasser de ceux des nôtres qui, à leur gré, bougent un peu trop. Marie avait écouté en silence ce qu'elle faisait toujours. Dans son cœur, elle sentait très fort que le Messie désiré de tous viendrait certainement. Mais quand? Vers 8 heures, Joseph était venu lui parler de sa journée. Elle lui avait montré la pièce de toile terminée qu'elle ferait tailler un de ses jours pour en faire une tunique. Il lui avait souri et était reparti, la laissant seule. Joseph n'était pas bavard, mais Marie représentait tout pour lui. Il pensait à elle avec émerveillement. Elle était belle, douce et pure. Il se voyait déjà à ses côtés, heureux plus que jamais de pousser le rabot pour assurer leur bonheur tranquille. Ils auraient des enfants, beaucoup d'enfants, car Dieu les bénirait. Dans la maison de Marie, comme dans tout le village, est tombé le silence de la nuit. Au loin, quelques aboiements, des bruissements d'insectes. Soudain, une lumière et une voix étrange, comme dans un songe. Marie s'éveille, surprise, un peu craintive. Alors, harmonieuse, les paroles retentissent. En elle, autour d'elle, elle ne sait.
N'aie pas peur, Marie. Dieu te regarde avec amour. Voici ce que je suis chargée de te dire. Tu vas porter un fils, tu le mettras au monde, tu le nommeras Jésus. Il changera la face de la terre et on l'appellera le Fils du Tout-Puissant. Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur le peuple choisi jusqu'à la fin des temps.
Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis pas encore mariée.
L'Esprit Saint viendra en toi, la puissance de Dieu va te recouvrir de son ombre. Aussi, l'enfant qui naîtra de tes entrailles pourra être appelé Fils de Dieu. Tu ne rêves pas? Et en voici la preuve. Ta cousine, Élisabeth, celle qui se lamentait d'être stérile, eh bien, elle attend un enfant qu'elle mettra au monde dans 3 mois. Vois-tu, pour Dieu, tout est possible.
Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse selon ce que tu as dit.
La maison était à nouveau silencieuse, curieusement semblable à la maison d'avant, celle qui avait abrité sa vie simple et sa prière de petite juive. La voix lui avait dit qu'elle était pleine de grâce, que Dieu était avec elle. Son cœur émerveillé de tant de révélations bouleversantes battait à tout rompre. Le Très-Haut l'avait choisie, elle qui se sentait si peu de choses. Oui, Dieu l'avait choisie. Et ses promesses, il les tiendrait comme il l'avait toujours fait, en Babylonie, en Égypte et ailleurs. L'enfant naîtrait, c'est certain. Pour le moment, cependant, il fallait d'abord penser à Élisabeth, courir chez elle, l'aider dans les derniers préparatifs. Joseph serait certainement d'accord. Il n'était pas là jusqu'au lendemain dans la soirée. Un travail urgent a terminé dans un village distant de plusieurs kilomètres. Elle le ferait avertir par les voisins, afin qu'il ne s'inquiétât pas. Une heure plus tard, toute recommandation faite, Marie prenait la route, juchée sur l'âne qu'elle avait reçu en héritage de sa mère, morte peu de mois auparavant. Il lui faudrait 5 bonnes heures pour rejoindre la ville dans laquelle habitait Élisabeth, une ville qui lui était familière puisque, toute petite, elle l'avait visitée à l'occasion de la Pâque. Il faisait chaud, très chaud, et l'âne avait du mal à garder un trot régulier. Peu importait à Marie. Elle était à la fois là et tout à fait ailleurs, perdue dans des pensées entrecoupées de joie et de questions. Elle avait répondu oui à la voix de l'envoyé de Dieu. Mais c'était maintenant le visage de Joseph qui s'imposait à elle. Comprendrait-il l'étrange aventure dans laquelle, à son insu, elle l'entraînait? Dieu lui ferait-il signe, comme à elle, pour lui expliquer que leur amour devait maintenant croître autour de cet enfant unique qui allait prendre corps? Elle n'était pas préoccupée, mais se disait en elle-même que l'événement dont elle était devenue le centre allait sans doute bouleverser beaucoup de plans et de projets. À l'approche du but de son voyage, Marie fut tirée de sa méditation par les rumeurs de paysans poussant devant eux leurs troupeaux de chèvres. Ils parlaient à voix haute des bonnes affaires qu'ils avaient réalisées au marché. Marie leur sourit au passage. Ils répondirent discrètement à son salut. Quelques dizaines de mètres plus loin, la jeune fille aperçut, à l'angle de la ruelle, la maison imposante de Zacharie et d'Élisabeth. À l'intérieur de la cour, des servantes, assises à même le sol, pétrissaient la pâte qui servirait à faire le pain pour la semaine à venir. L'une d'entre elles avait reconnu Marie qui s'était avancée, la tête encore recouverte du voile qui l'avait protégée durant le voyage. Elle se hâta d'aller avertir Élisabeth dans la grande salle haute. Marie la vit arriver, le visage illuminé. Sur les lèvres d'Élisabeth se mit à fleurir un langage nouveau dans lequel le respect et la vénération semblaient avoir remplacé l'affection, l'amitié.
Parmi toutes les femmes, tu es bénie, Marie, et bénie est l'enfant que tu portes en toi.
Élisabeth savait donc le secret de Marie. Elle savait tout. Cette cousine tant aimée, qui inconsciemment, les mains doucement appuyées sous sa poitrine, semblait protéger un trésor. Elle continua, comme extasiée.
D'où me vient donc la grâce de recevoir sous mon toit la mère de mon Seigneur? À peine ai-je entendu ta voix, Marie, que l'enfant qui est en moi a tressailli de bonheur. Oui, tu es bien heureuse. Car tu as cru que se réaliserait vraiment tout ce que Dieu t'a fait connaître.
Alors, Marie, le cœur débordant de reconnaissance, sentit monter en elle la poésie de son peuple et se mit à exprimer la foi de siècles et de siècles d'espérance et d'attente, aujourd'hui accomplie.
Mon âme chante la gloire du Très-Haut, et mon esprit est plein de joie dans le Seigneur qui m'a sauvée. Il s'est penché sur son humble servante. À cause de lui, les générations à venir me diront bienheureuse. Le Seigneur a voulu réaliser en moi de grandes choses, lui, le Saint. Sa bonté, je le sais, s'étendra de génération en génération sur ceux qui font sa volonté. Il déploie la force de son bras et réduit à rien les cœurs orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Grâce à lui, les petits relèvent la tête. Les affamés repartent comblés de ses faveurs. Les rassasiés regardent leurs mains vides. Il a rendu l'espoir à Israël, son serviteur, en souvenir de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.